commencé à structurer l'équipe par verticales différentes, donc chacun ayant ses affinités, chacun préférant travailler soit le manuf, donc les entreprises industrielles, un autre préférait les banques, etc. Donc on a séparé petit à petit les comptes en leur attribuant un certain nombre de clients, mais en laissant des listes beaucoup trop longues de comptes. Donc ça revenait à faire finalement de l'inbound. La démarche de sélection des comptes et de choix, c'est pour ça que je parle de renoncement tout à l'heure, c'est le fait de se dire qu'on ne peut pas faire de business avec l'ensemble de la planète. Il faut arriver à trouver les critères qui vont permettre à l'entreprise de mieux fonctionner et de mieux pénétrer son marché. Donc c'est une... Alors, les équipes sales et les managers sales ont de l'intuition. Ils savent... ils ont des idées parfois préconçues sur les entreprises qu'ils doivent aller voir et les autres qui ont a priori moins de chances de transformer. Mais donc la démarche nécessite d'être beaucoup plus structurée. Quand des prospects viennent nous voir chez ABM Orchestra pour nous demander en fait de démarrer un programme ABM, certains n'ont aucune idée des comptes sur lesquels ils veulent travailler. Et donc, c'est à nous de les conseiller. Et d'autres ont déjà des idées préconçues. Et donc, quand ils arrivent avec des idées, déjà des comptes qu'ils veulent inclure dans leur programme ABM, on observe souvent des défauts. Et je voudrais revenir sur les erreurs qui peuvent être commises avant de rentrer vraiment dans la méthodologie. Généralement, alors il se peut que les directeurs marketing... propose de lancer un programme avec trop de comptes. Trop de comptes ABM par rapport aux ressources de l'équipe, donc des comptes qui sont dans des secteurs différents, qui ont des tailles différentes, qui vont nécessiter une approche beaucoup plus mécanique et pas assez personnalisée. Et donc ça, c'est le premier défaut qu'on observe. On a envie d'en mettre toujours plus et les commerciaux ont toujours son prix de vertige quand on leur enlève des comptes. Ils ont l'impression qu'on leur enlève du business. Au contraire, c'est on leur enlève du souci pour mieux se concentrer sur un petit nombre de comptes qu'ils vont pouvoir approfondir et mieux travailler. L'autre écueil, c'est l'inverse. Vouloir lancer un programme ABM avec un ou deux comptes. Et si on choisit, par exemple, de se lancer sur Total Energy à 3 jours du lancement de l'offensive russe, on se retrouve un peu arrêté. Donc, il vaut mieux avoir un nombre de comptes suffisant qui vont permettre de ne pas être bloqué par un aléa quelconque sur un des comptes. S'il n'y a pas assez de comptes, ça veut dire que derrière, il n'y a pas assez de commerciaux qui sont rattachés à ces comptes. Et donc, on est un peu dépendant aussi du profil du commercial. Et si on n'y arrive pas, on ne sait pas sur qui faire porter la faute. L'autre défaut aussi, c'est les directeurs commerciaux qui vont vouloir intégrer dans le programme ABM que des comptes vierges, ce qu'on appelle des greenfield. Donc en disant, ceux-là, on ne fait pas de business avec eux, donc ça ne peut pas faire de mal, sauf que c'est l'exercice le plus difficile, parce que travailler des comptes vierges, ça veut dire comprendre le fonctionnement du compte, comprendre sa structure, ce qui intéresse avant tout les CEO, se faire référencer, trouver des points d'entrée, etc. Donc, c'est l'exercice le plus difficile. Choisir des comptes pas adaptés, donc trop petits, dans lesquels il n'y a pas assez de récurrence. Choisir, par exemple, je me souviens d'un commercial qui voulait choisir un compte retail parce qu'il y avait un appel d'offres en cours. Et une fois que l'appel d'offres était fait, il n'y avait pas d'autre business à prendre sur ce compte. Ce n'est pas un bon choix. Un compte ABM, c'est un compte sur lequel, on va y revenir, il y a de la référence. Ou trop faible potentiel incrémental. C'est un compte déjà client, on est au max de ce qu'on peut faire, mais on veut faire de l'ABM pour maintenir une position défensive. Là non plus, l'ABM, c'est une stratégie offensive. qui doit permettre d'accélérer le new business. Donc si on en vient à cette méthode qui est utile, mais qui n'est qu'une méthode, en fait, peut-être une définition, c'est une technique de l'ideal customer profile, donc qui permet de définir à partir des différentes caractéristiques le profil du client idéal. Donc le portrait robot du client qu'on rêve d'avoir, afin d'en trouver plusieurs, afin d'en trouver un maximum. Donc c'est une technique. Il n'y a pas de liste de critères, donc désolé, mais je ne vais pas vous donner une liste exhaustive de critères qu'il faut passer en revue. Mais en tout cas, la recherche des critères qui sont propres au compte que vous devez identifier fait partie de la méthode. C'est la première étape de la méthode, trouver les bons critères qui vont permettre de définir les comptes qui sont intéressants. Voilà, donc je vais vous donner ma propre expérience ou la propre utilisation qu'on adopte de la méthode de l'ICP chez ABM Orchestra, donc au travers de deux exemples. Donc le premier exemple que j'ai en tête, bon, je dis Samsung, je le dirai qu'une fois, n'en retenez pas le nom, mais donc on avait ce client qui cherchait en fait à impliquer ses commerciaux et à leur faire choisir finalement leur compte cible au sein d'une liste déjà existante. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé un workshop avec ces commerciaux, et ce type de workshop, on le fait en présentiel, parce que c'est plus convivial, on colle des post-it sur des boards, on fait un préambule sur l'ABM, donc on embarque les commerciaux dans une histoire et on leur fait comprendre les fondements et what's in it for them, donc les bénéfices qu'ils peuvent tirer de l'ABM. Et donc on les met par équipe, donc quand je dis commerciaux, c'est des équipes multidisciplinaires, donc le commercial grand compte, un ou deux dans l'équipe, un CSM, donc une personne chargée de la relation avec les clients, une personne du marketing, des avant-ventes, etc. Et ils vont donner leurs idées de critères déterminant le profil du client idéal sur des post-it de couleur par équipe. Et on fait le compte. Donc, la première grande famille, donc le premier board, concerne les données firmographiques. Les données firmographiques, c'est des données incontestables, chiffrées, publiques ou pas, d'ailleurs, qu'il faut parfois rechercher sur Google. Ah, c'est le chiffre d'affaires, c'est le profit, c'est le nombre d'entités. Donc ça, ces données, on peut les trouver dans une nomination, on peut les trouver dans l'INSEE. Le nombre de points de vente, c'est déjà plus difficile à trouver parce que ça n'existe pas dans les bases et donc il faut faire de la recherche sur Google. Et le nombre de points de vente, c'est une donnée qui est hyper importante chez Samsung. Notamment, ils vendaient des displays, donc des écrans pour les vitrines des magasins. Donc plus il y a de magasins, plus il y a d'écrans, donc je ne vous fais pas un dessin. Le nombre d'usines, parce qu'ils vendent aussi des écrans sur les lignes de production, et donc plus les usines sont nombreuses et plus les deals potentiels sont importants. Le nombre d'entrepôts, parce qu'ils font des terminaux durcis pour les manutentionnaires, etc. Et on fait ça sans aucune censure, hein. C'est des insights, et donc on voit à la fin de la session les post-it qui sont vraiment pertinents. Et parfois on a des critères qui ne nous arrangent pas parce que les données ne sont pas forcément facilement trouvables. On a bossé pour le leader de l'aménagement de bureaux, ben, un des critères que voulaient les commerciaux, c'était le nombre de mètres carrés de bureaux. Donc le nombre de mètres carrés de bureau, ça, on l'a trouvé dans une boîte de données B2B à Nantes qui travaillait à partir des cadastres, etc. Et c'était très pertinent comme données. HQ en France, tu l'as dit, effectivement, s'acharner contre une filiale qui n'a pas de budget pour ou pas le pouvoir de décider d'outils, etc., c'est du temps perdu. Voilà. Le nombre d'employés, alors on peut simplifier. Si on n'a pas accès à des bases de données, on peut aller chercher le nombre d'employés sur LinkedIn. Mais dans un premier temps, on ne se pose pas la question de savoir où sont les données, on essaye d'ouvrir. Les données, ce n'était pas firmographique, c'était des données comportementales, hein, la deuxième colonne, une petite faute de frappe. Donc les données comportementales, c'est finalement le type d'entreprise. Deux entreprises de même secteur, de même taille, peuvent être très différentes parce que l'une est en croissance, l'autre en décroissance. L'une est très RSE, l'autre se moque un peu de la planète, etc. Donc, y a aussi tout le niveau d'investissement IT, les types de solutions que l'entreprise utilise. Chez Azalid, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait un outil qui s'appelait Built With pour aller regarder sur tous les sites web de nos prospects quelles solutions ils avaient pour la pub en ligne, pour le marketing automation, pour le SEO, etc. Et en fonction de leurs outils, on savait si on était bien armé pour aller attaquer ces entités. Croissance des effectifs, donc toutes ces données comportementales. Ensuite, il y a la troisième chance, c'est le footprint, l'empreinte que nous avons au sein de cette entreprise. Donc les données financières, hein, qu'on peut aller chercher à la direction financière, donc le chiffre d'affaires, l'activité qui a été générée depuis 3 ans avec cette entreprise, le pourcentage d'entités pénétrées. Donc, est-ce qu'on bosse, quelqu'un parlait, je crois que c'est Tiffen tout à l'heure, d'EDF, voilà. Est-ce qu'on travaille avec 3 entités sur 50 chez EDF ou 10 sur 50 ? Le nombre d'interlocuteurs connus ou rencontrés, donc ça aussi, c'est un critère. Est-ce qu'il faut attaquer des comptes ABM sur lesquels on a déjà une bonne assise qui vont nous permettre, des champions en interne, qui vont nous permettre de facilement essaimer, de comprendre l'entité et d'avoir des introductions plus faciles. Le nombre de prospects dans le CRM, est-ce qu'on a une base suffisamment importante pour lancer des actions marketing et relancer tous ceux qui ont déjà manifesté un intérêt pour nous. Les références dans le secteur, donc quand on choisit de travailler la banque, il vaut mieux avoir déjà une banque parmi ses clients sur laquelle on a déjà un bon track record parce qu'on sait que les banquiers aiment bien bosser avec des prestataires qui ont un banquier parmi leurs clients, les labos pharmaceutiques c'est pareil, etc. Et le dernier point que tu as signalé, ou enfin dont on a déjà parlé, être référencé aux achats. Donc ça, c'est peut-être sur les grands groupes, c'est souvent un travail de 6 mois, de 9 mois, ou qu'on n'arrive parfois jamais à réaliser pour différentes raisons. Et donc, ça peut être un critère discriminant pour choisir ses comptes ABM. Il fallait choisir une des grandes entreprises qui appartenait à l'une des 3 verticales qu'on avait sélectionnées, que le client avait sélectionnées avec les commerciaux, déjà client de 2 solutions, chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard, plus de 10 000 employés, X mètres carrés de bureau, etc., etc. Donc ça, c'était le premier type d'utilisation, un workshop avec des commerciaux pour réellement à la fois leur faire prendre conscience qu'on ne peut pas travailler toutes les boîtes du monde, et en même temps pour donner une ligne directrice qui est après suivie des faits. Il peut y avoir des adaptations, bien sûr, on est dans la vraie vie, donc il peut y avoir des exceptions.
Je trouve, qui plus est, que c'est beaucoup plus simple après, quand on a ce framework, ce cadre, quand on continue à être en croissance et qu'on va chercher une opportunité, on se dit « Ah tiens, Adidas, c'est vraiment trop génial et on aimerait trop bosser avec eux », mais en fait, on se dit « Est-ce que c'est ICP ?» Est-ce que ça répond en fait à l'HQ, il est bien en France ou son centre de décision, je ne suis pas référencé, je n'ai jamais bossé avec eux. Ok, c'est une love brand, bien sûr que j'ai envie de travailler avec eux, mais finalement, ça permet aussi, quand on est commercial ou directeur commercial ou autre, de déculpabiliser, de pas aller sur une opportunité. Parce que c'est du temps perdu, justement, de nos équipes, le nôtre, d'aller là-dessus et de pas traiter, finalement, le client idéal pour qui on aimerait, au-delà d'aimer travailler, pour qui on peut travailler.
Ok, donc effectivement, tu as souligné la consistance. Donc on a choisi un profil ICP, il faut s'y tenir, c'est un cap, hein, on ne change pas de cap tous les 4 matins. Voilà, un autre type d'utilisation qu'on a eu, c'est un travail légèrement différent pour une entreprise qui était un tout petit peu moins mature que Samsung, mais c'était quand même une très grande entreprise. Leur problème était le suivant, ils avaient donc des commerciaux grands comptes, mais qui avaient des listes beaucoup trop larges. Ils avaient en fait une liste de comptes cibles, je me souviens plus exactement, mais je crois que c'était entre 500 et 700. Et donc il fallait passer à 50, parce que je crois qu'ils avaient 7 commerciaux grands comptes, 50 grand maximum, et ils ne savaient pas comment faire. Ils ne savaient pas comment faire parce qu'ils avaient une liste un peu hétéroclite. Donc le premier travail a consisté, donc ils ont fait appel à nous pour petit à petit mieux concentrer les efforts. Et on a passé 6 mois avec eux à les accompagner pour recentrer l'organisation commerciale autour de 50 comptes cibles. Donc il a fallu d'abord restructurer la liste parce qu'elle était hétéroclite, il y avait des filiales, il y avait des filiales de groupes étrangers, des grosses PME, des énormes comptes globaux, il y avait des filiales de têtes de groupe. Donc on a fait le ménage avec les comptes INSEE, notamment en utilisant une solution qui s'appelle Nomination, qui permet de bien mapper les comptes, de savoir quelles sont les têtes de groupe, les filiales, etc. Et on a travaillé sur un certain nombre de critères pour sortir un score. Donc là, il n'y a pas tous les critères, je ne voulais pas tous les mettre, mais il y avait des critères de chiffre d'affaires, d'effectifs, de chiffre d'affaires réalisé avec ces groupes sur les dernières années, de développement. Voilà. Et donc, à partir de là, on a fait un score, on a calculé un score. Donc, le nombre de contacts dans le CRM est supérieur à 100, alors 1, sinon 0. Donc, un score très simple, arithmétique, mais qui a permis en fait de classifier les comptes et de les hiérarchiser pour aider la direction commerciale à faire ses choix et à déjà proposer à ses commerciaux, à ses propres commerciaux, des listes hiérarchisées en leur demandant au sein de leur liste de choisir des comptes. Les comptes qui avaient les meilleurs scores ou pas, c'était sous leur responsabilité, mais c'était un indicateur, c'était une aide aux commerciaux pour les aider à choisir leurs meilleurs comptes. Et ensuite, une soutenance de chaque commercial pour dire voilà pourquoi je veux retenir ces 5 comptes, en argumentant compte par compte et en développant la stratégie pour arriver à faire le business qu'ils s'engageaient à faire sur chacun des comptes.
J'adore ta slide de conclusion, c'est comment ça se passe dans la vraie vie.
Comment ça s'est passé pour vous, alors justement, l'ICP, puisqu'on en parle, tu as commencé à en parler, mais...
C'est vrai, ce qui est sûr, c'est que tous les écueils dont tu as parlé, à savoir... combien de comptes, quel compte choisir, ça nous a bien sûr traversé l'esprit, on se posait la question, je me souviens, on te disait, non mais lui on le garde, ah non non, et ce que j'aimais beaucoup c'est que Hervé, la première chose qu'il m'a dit c'est avec quel compte tu vas être capable à la fin de l'année de faire 10 millions, et j'ai regardé 10 millions en me disant mais déjà notre chiffre d'affaires c'est 5, alors comment en 9 mois je vais faire 10 millions, je voyais pas trop, mais en fait la façon dont il le présentait c'était parfait parce que ça nous permettait de nous dire quel compte a le potentiel d'amener jusqu'à, de nous amener ensemble jusqu'à 10 millions, quand bien même dans la vraie vie, bah, il va y avoir des prods qui se passent pas bien, et puis il va y avoir cet appel d'offres qui tombe, on sait pas forcément d'où, ou par une somme d'actions qui font qu'on l'avait pas vu venir non plus. Et il faut réussir à avoir ce cap, cette ligne directrice, ce cadre, tout en acceptant qu'il va y avoir des formes d'aléas et des choses qu'on ne savait pas. Et donc, on a travaillé conjointement avec l'équipe marketing, et je pense que c'est, on l'a martelé avec l'alignement des équipes, mais prioritaire pour pouvoir comprendre, parce que forcément, au sein de l'équipe commerciale, on va avoir des biais qui sont les nôtres. Ah, telle boîte c'est bien, telle boîte c'est pas bien. Mais notre équipe marketing, qui a passé beaucoup de temps finalement avec nos propres clients à leur poser plein de questions, qui sont pas des questions commerciales, mais d'ordre de pourquoi ils avaient travaillé avec nous, comment ils nous percevaient, comment ils voyaient notre site, faisait que les critères apportés par le marketing n'étaient absolument pas les mêmes que les critères apportés par les équipes commerciales. Et heureusement, ça montre pas un désalignement, ça montrait justement la richesse que pouvait avoir un compte ICP. Il fallait qu'il touche les deux directions. Ce que je retiens aussi, c'est que parfois, la love brand, le client avec qui on a trop envie de bosser, c'est pas du tout le client avec lequel faut bosser, en fait. Et à l'inverse, on travaille dans le contenu, alors bosser pour des boîtes comme, je vous le dis, Adidas, Netflix, je peux les citer, on prend la liste des top 10 marques préférées des Français ou dans le monde, et en fait, pour You Love World, ce n'est pas du tout nos clients idéaux, parce qu'en fait, ils sont ultra structurés, le contenu, ils en font à tous les niveaux et de façon un peu globale. Et généralement, justement, ils externalisent pas, ou peu en tout cas, la production de ces contenus-là. Et puis, une fois qu'on a fait la liste des clients, ce qui était super important, c'était, moi je me souviens, c'était de la partager à tout le monde. On a fait un tableau avec les logos et on a vraiment dit, où que vous soyez, à un repas de famille, à un dîner, sur LinkedIn, n'importe où, il faut que vous sachiez que voilà nos top clients. Et même moi, dans ma démarche avec nos partenaires, avec des amis de mon réseau commercial ou autre, maintenant presque la première question que je pose, c'est quoi ton client idéal, en fait, c'est quoi ton ICP, parce que tout de suite ça me permet de me dire que si la personne en face de moi est capable très rapidement de le critériser et de le lister, eh bien, en connaissant sa base client, on sait tout de suite si tiens, tu peux lui faire une passe ou lui parler d'un tel ou lui apporter de l'information. Ce qui fait la richesse, on va dire, d'un réseau. Et puis, si je descends un cran en dessous, maintenant, après, comment avec les équipes, ça permet de bien se passer, c'est de les associer au choix du compte, super important. On disait que l'ABM devait être porté par la direction, mais on ne peut pas arriver, voir son commercial préféré et lui dire, bon, bah, alors maintenant, ça sera la BNP pour toi. Il faut que ce soit lui qui dise, j'ai envie de faire ça pour la BNP, par exemple, ou tout autre compte. Même si c'est une histoire vraie, ce que je dis là. Donc il faut que ce soit conjointement et accepter d'y mettre tous de l'effort ensemble. C'est-à-dire qu'en effet, si nous, on a fait notre workshop de notre côté, le marketing nous a aidés, et que maintenant, on dit aux sales, bon, bah, tiens, c'est à toi, on a tout acté, débrouille-toi, on se retrouve toutes les fins de semaine pour que tu me fasses ta review de pipe, ça ne fonctionnera pas. Et c'est parce qu'on a de l'implication, un peu en sandwich, on disait... au top avec les décisionnaires et puis avec le travail hebdomadaire quotidien des commerciaux.
Oui, et effectivement, donc, tu as raison sur tout ça. Ce qui est important aussi de voir, c'est que le choix ne doit pas avoir un enjeu phénoménal. On ne choisit pas les comptes, le patch de comptes sur lequel va travailler chacun des commerciaux à vie. Donc il faut se donner un petit peu de souplesse. Tout en gardant le cap, il faut se donner un tout petit peu de souplesse. Donc ce que font les clients, donc moi j'invente rien, mais ce que font les grands clients pour lesquels je travaille, c'est d'avoir toujours la possibilité, non pas tous les trimestres, mais peut-être deux fois par an, de pouvoir changer un ou deux comptes du patch de chacun des commerciaux. Donc la possibilité aussi d'orienter les programmes ABM sur quelques comptes nouveaux, et surtout de mettre le focus aussi sur une sélection de comptes à l'intérieur des comptes prioritaires. Voilà. Moi, je me souviens de la réflexion qu'on avait avec Nick, mon associé chez Azalier, on disait c'est peut-être pas la meilleure sélection de comptes du monde, mais c'est quand même des sacrés beaux comptes.